sur France Inter.
Vous êtes Karine Rosinski ?
Laissez vos armes, s'il vous plaît, c'est dangereux.
J'ai un mandat d'arrêt au nom de Karine Rosinski.
C'est pas ici, vous vous trompez, c'est pas elle. Baissez votre arme, vous lui faites peur.
On bouge plus. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité ?
C'est pas elle, je vous dis.
Vous êtes Karine Rosinski, madame ?
C'est n'importe quoi, c'est ma femme. C'est la directrice de l'école. Montez les papiers.
Madame.
Venez.
Vous êtes Karine Rosinski ?
Oui.
Nous venons d'entendre un extrait du film d'Arnaud Despalières, qui est notre invité ce soir. Son film sortira la semaine prochaine, il s'appelle Orpheline. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et avec un grand monsieur que nous aimons beaucoup, qui vient de sortir un nouvel album. Je veux parler de Rodolphe Burger.
C'est l'heure où tout le monde est vieux. Un parfum en tête, une suée. Le son du variateur quand la lumière faiblit. Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous rappelle rien ? On se retrouve, ni mieux ni pire, au bar. Quelque chose a enflé, quelque chose s'est creusé. Signal pour servir les cocktails de flatterie au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien. Que des liqueurs abstraites, produites à l'œil par magie blanche. Mais vous, vous reprendrez bien une petite coupe. De ci, lui de là. Chantonne un cavalier mental. My rifle, my pony, and me. My rifle, my pony. My rifle, au bar. Quelque chose a enflé. Quelque chose s'est creusé.
Arnaud Despalières, vous êtes cinéaste. On vous a découvert en 1997 avec Drancy Avenir, un film magistral à la fois ode, poème, réflexion historique sur la période de l'occupation. Et puis ensuite, il y avait eu encore une fois un documentaire magistral dans un tout autre domaine, puisque vous aviez passé des jours et des nuits à Disneyland, et votre film s'intitulait Disneyland. Et là, on avait compris qu'on avait affaire à un cinéaste qui s'affranchissait des formes habituelles du cinéma, qui interpellait le cinéma comme un art majeur, à la fois politique, mais aussi sociologique, intellectuel et presque métaphysique. On en aura d'ailleurs des réponses de vos questionnements métaphysiques dans ce film qui s'intitule Adieu, puis ensuite il y a eu Parc, et puis ensuite Michael Koulas, une sorte de fable, une sorte de western fable, oui, qui se passe au XVIe siècle, qui avait été sélectionné au Festival de Cannes. Et puis la semaine prochaine sort là aussi un film magistral, très énigmatique, à la fois dans sa forme, dans son scénario et dans les questionnements qu'il provoque, qui s'intitule donc Orpheline. Mais avant tout ça, c'était le théâtre qui vous tentait, Arnaud Despalières?
Oui, parce que au théâtre, on bricole et qu'on peut avoir accès au travail extrêmement rapidement. Ça a été le théâtre d'abord parce que je pensais que ce qui m'intéressait le plus, c'était d'être acteur. Alors, j'aurai confirmation assez vite que j'étais un piètre acteur. En revanche, la question de l'acteur continue de m'intéresser. Elle m'a jamais quitté. L'apprentissage de la mise en scène, mais de la mise en scène surtout de l'aspect, j'ai envie de dire, pratique de la mise en scène. C'était pas tant dans ce que j'ai fait, en tout cas au théâtre, des grandes idées.
Le Marquis de Sade et Nietzsche, c'est pas mal, hein.
C'est un peu un point d'origine qui était entre la littérature et la philosophie, qui a été longtemps, le monde des idées et les phrases et les mots, ça a été longtemps, le sol de ce que j'ai voulu faire en cinéma. Et je crois que je suis en train de constater que je m'en suis éloigné.
Et pourtant, je crois que l'amour du cinéma, l'amour du cadre, l'amour des acteurs, l'amour du mystère qu'incarne le cinéma a commencé très tôt dans votre existence, Arnaud Despalières. Nous allons écouter l'ouverture d'un film qui vous a beaucoup marqué. Écoutez.
Donne-le-nous. Il nous faut.
Les enfants, c'est impossible.
Balthazar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Marie, Marie!
Que se passe-t-il dans cette ouverture de ce film de Robert Bresson, Hasard Balthazar, qui nous émeut même quand on entend la bande-son? Arnaud Despalières.
C'est du cinéma à l'état pur. C'est du temps à l'état pur, c'est des images et des sons sans qu'on soit tenu d'en comprendre ou d'en discerner le sens. Et ce mystère incroyable qui est le début d'un film dont on ne sait pas exactement qui est le sujet. Et on va découvrir, contre toute attente, que le sujet, c'est la bête, c'est un petit âne, c'est l'animal. Cet animal à la hauteur duquel le film se conjugue et à travers les yeux duquel on voit le film.
Alors le cinéma, pour vous, c'est de l'émotion, de la sensation ou plutôt de l'énigme?
Ça n'a pas toujours été ça, mais pour moi, c'est de l'émotion. C'est une expérience sensible. Par la rencontre improbable et énigmatique d'images et de sons. Plus que des histoires, plus que c'est vraiment une expérience complètement unique de d'accord et de désaccord entre des images et des sons. Et donc ça n'est pas forcément toujours une histoire, mais c'est toujours une expérience du corps, une expérience du regard et de l'écoute.
Alors vous n'avez pas quitté pour autant les rivages de la philosophie parce que vous avez étudié le cinéma. Et vous avez convié, dans le cadre de cette école prestigieuse qui s'appelle la FEMIS, qui a succédé à l'IDEC, un grand professeur de philosophie qui avait commencé par la philosophie pure et puis qui, à un certain moment de sa vie, s'est complètement passionné pour le cinéma, nous a laissé deux ouvrages majeurs sur le cinéma. Aujourd'hui, aucun étudiant de cinéma en France ne peut se passer de le lire. Nous allons l'écouter. Je veux bien sûr parler de Gilles Deleuze, extrait de son séminaire du 5 janvier 1982.
L'ensemble illimité des images-mouvements, c'est ça l'univers. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est? Dans quelle atmosphère on est déjà? Personne se demandera. Il se dira, mais de quel point de vue je parle? Un univers illimité d'images-mouvements, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le mouvement est image et l'image est mouvement. Ça veut dire que l'image, fondamentalement, elle agit et réagit. L'image, c'est ce qui agit sur d'autres images et ce qui réagit à l'action d'autres images. L'image subit des actions venues des autres images et elle réagit. L'image, c'est ce qui apparaît. La philosophie, elle a toujours dit, ce qui apparaît, c'est le phénomène. Le phénomène, l'image, c'est cela qui apparaît en tant que ça apparaît.
Alors là, le son de Gilles Deleuze n'est pas très bon parce que c'est une conférence, un séminaire qui a été enregistré par un petit magnétophone. Mais vous, Arnaud Despalières, vous avez invité Gilles Deleuze à la FEMIS pour qu'il fasse une conférence. Et quand on regarde un peu scrupuleusement votre itinéraire, on s'aperçoit que c'est la première fois que vous avez pris une caméra parce que vous avez enregistré Gilles Deleuze faisant ce séminaire à la FEMIS. Que vous apporte-t-il et que continue-t-il à vous apporter?
En fait, j'avais invité Gilles Deleuze parce que j'avais lu les deux livres sur le cinéma qu'il avait écrit. Je partageais beaucoup de points de vue qui étaient dans son livre, et notamment une chose contre laquelle je me bagarrais à l'époque dans cette école de cinéma, dans laquelle j'avais d'ailleurs un peu atterri par hasard.
Et il faut un grand concours, un difficile concours. Claire Simon vient de faire un film magnifique sur ce sujet. Vous n'allez pas me dire que vous avez réussi ce concours, un des concours les plus difficiles de la République, par hasard, Arnaud Despalières.
Si, un peu par hasard. J'avais deux amis qui voulaient passer le concours. On s'est mis à plusieurs et on a dit, tiens, si on essayait. Et je vous assure que ça n'était pas de mon, je n'avais pas du tout l'intention de faire du cinéma. Je d'ailleurs rentrais à la FEMIS. J'ai passé la première année et demie à me dire que je reviendrai à mes premières amours et au théâtre parce que j'avais l'impression qu'on pouvait y travailler plus en profondeur avec les acteurs, qu'on avait plus de temps, qu'on avait plus de temps pour la réflexion. Et il a fallu attendre le premier court-métrage pour lequel je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que j'essaye de monter le film pour que je me dise que j'avais affaire avec le cinéma. Et en fait, il a fallu attendre ma première expérience de montage. Et à la fin de ma première expérience de montage, je me suis vraiment approprié la singularité de ce que c'était que le cinéma. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure pour moi, c'est-à-dire l'expérience du rapport entre des images et des sons.
En tout cas, vous êtes toujours le monteur de tous vos films et Deleuze là-dedans.
Et Deleuze avait dit, parmi toutes les choses qu'il avait dites, avait dit une chose qui, j'ai l'impression, m'est restée toute ma vie de travail en cinéma. Il avait, entre autres choses, insisté sur le fait de ce que c'était qu'avoir une idée en cinéma. Et ça avait à voir avec une autre lecture que j'avais faite, qui était celle de Lacoula Barthes à propos de Paul Celan, où il disait quelque chose comme, je simplifie évidemment, la forme est EST le fond de la poésie. Et donc l'écriture au cinéma, l'écriture cinématographique est le sujet même du cinéma, le sujet même du film. Et avoir une idée en cinéma, c'est se dire que ce qu'il faut faire en cinéma, c'est quelque chose qu'on ne pourrait faire ni en littérature, ni en musique, ni en théâtre, ni en autre chose. Et je crois que depuis que je fais des films, ce que je recherche à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle aventure, c'est d'inventer une manière de raconter quelque chose qui ne pourrait être raconté qu'en cinéma, c'est-à-dire avec des images et des sons.
Votre premier long métrage, Arnaud Despalières, s'intitulait Drancy à venir. Il ne faut pas voir un jeu de mots, un méchant jeu de mots dans ce titre, mais tout simplement la réalité géographique. Vous avez décidé d'aller filmer à Drancy. Drancy à venir, c'est le nom de la station de métro. Et vous avez décidé d'aller filmer dans une classe d'école ce qui se disait au cours d'un enseignement d'histoire sur ce qui s'était passé à Drancy. Mais vous vous contentez pas de faire du documentaire, de la sociologie, de la transmission de mémoire, mais vous introduisez votre propre réflexion sur la Shoah, le génocide. Nous allons écouter la voix de Robert Antelme. Je pense que vous êtes beaucoup nourri de la lecture de ces textes fondamentaux. Nous allons l'écouter parler de la littérature sur les camps de concentration. C'est une archive INA du 1er janvier 1947, donc juste après que le livre de Robert Antelme ait été publié dans un silence assourdissant. On écoute Robert Antelme.
Non, il me semble que la littérature des camps qui a été publié juste ici, n'épuise absolument pas les possibilités d'expression des différentes années qui ont été occupées par ce qu'on sait. Sur le plan romanesque, en effet, l'expérience du camp constitue un véritable échec de l'imagination. C'est que, à un moment donné, le camp s'est identifié véritablement à la vie. D'où on peut imaginer les possibilités infinies qui existent de dire non seulement ce qui s'est passé, mais tout ce qui a été vécu, depuis la simple réflexion sur la faim, jusque à l'amour, la passion, l'amitié, la haine. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas un être humain, pas un écrivain, qui serait en mesure de donner une image réelle de ce qui a été totalement vécu là-bas, sur les différents plans de la connaissance et de la sensibilité.
Nous venons d'entendre la voix de Robert Antelme. Il dit échec de l'imagination, impossibilité de produire des images réelles. Et pourtant, vous, en inventant une forme tout à fait nouvelle, Arnaud Despalières.
Et pourtant, lui, l'espèce humaine.
Oui.
Enfin, je compte pas du tout dans cette affaire. Moi, je suis bouleversé d'entendre cet enregistrement que je connaissais pas. Robert Antelme a produit un des textes les plus humains, les plus délicats, les plus. Ce qui était extraordinaire avec le texte de Robert Antelme, c'est que arrivait dans un camp un homme dont la conscience politique était déjà formée, dont la tête était déjà extrêmement construite, un homme très intelligent, très cultivé, qui avait tous les outils d'analyse de son époque et qui arrive avec cette puissance de compréhension et qui, alors je ne peux pas dire ce qu'il faut lire ce texte. Il faut absolument lire ce texte.
Mais il est disponible en livre de poche.
L'espèce humaine, qui est le seul livre qui n'intimide pas et qui revendique, enfin dont toute la dramaturgie repose sur la douceur vis-à-vis du lecteur, qui ne raconte ni ne décrit rien de tout ce qu'un lecteur voyeur pourrait rechercher, qui au contraire décrit le quotidien et évite soigneusement les descriptions dantesques et qui permet au lecteur de conserver son jugement, sa faculté de penser, sa mémoire, et que, comme le dit très bien Pérec dans un très beau texte qu'il a écrit sur l'espèce humaine, qui est presque aussi fort que le texte de, et qui a été un texte qui m'a beaucoup servi, moi, pour réfléchir à comment faire un film sur l'extermination des Juifs d'Europe. Pérec insiste sur le fait qu'il y a un effet anesthésiant de l'horreur quand elle est décrite, et donc qui rend stupide, et qui fait que et que toute l'entreprise d'Anthelme est d'empêcher le lecteur de devenir stupide par des descriptions d'événements trop stupéfiants au sens de l'horreur, et donc en faisant le récit le plus doucement possible, le plus délicatement possible, j'ai envie de dire le plus quotidien et banal possible, mais à hauteur d'homme, et ce texte, pour ça qu'il ait eu l'emprise sur lui-même, sur ses propres sentiments, sur sa propre souffrance, sur sa propre révolte, est le signe d'un immense écrivain et de l'écrivain d'un seul livre. C'est très touchant que vous nous fassiez entendre ce texte. Je me souviens qu'après que je sois venu sur le plateau de Bernard Rapp il y a longtemps parler de mon film, quand il m'avait invité à la sortie, il m'a proposé de faire un siècle d'écrivain, et il m'a dit: est-ce que vous seriez tenté de faire un siècle d'écrivain sur Robert Anthelme? Et j'avais décliné, d'abord parce que je me sentais pas du tout à la hauteur de faire quelque chose sur Robert Anthelme, et puis parce que je voulais partir ailleurs, je voulais pas me faire le spécialiste d'une question, voilà, spécialiste que je n'étais pas du tout. Le Drancy à venir est un film bricolé. C'est un film fait avec les éléments qui étaient les miens. Moi, j'habitais près de la Cité de la Muette à Drancy. J'habitais une petite maison à Bobigny, et c'est parce que je suis devenu voisin de cet endroit que un ami, Mohamed Rouabi, qui est entre-temps devenu un excellent dramaturge et acteur de théâtre, m'a emmené sur les lieux et m'a dit: voilà, je te présente ma banlieue. Il était natif de Drancy, et c'est lui qui m'a fait arpenter pour la première fois la Cité de la Muette, et c'est à lui que je dois d'avoir fait ce film.
On en écoute un extrait.
Tu me parles de choses, je pourrais presque dire que je les avais oubliées. Et le souvenir de te les avoir racontées, je ne l'ai même plus. Oui, je comprends ton projet de travail. Oui, je suis heureuse que tu l'entreprennes et que tu ne veuilles pas te contenter de témoignages que d'autres avant toi ont déjà recueillis. Ce que je comprends moins bien, c'est le rapport que tu fais entre la maladie de mon visage et l'extermination des Juifs. De la façon dont tu la racontes, cette histoire me paraît presque belle. Mais c'est pour moi un peu comme si tu faisais le récit d'une femme que je ne connais pas.
C'est une sorte de poème, au fond, Drancy à venir.
Oui, c'est comment faire... quand on est travaillé par une obsession et qu'on n'a pas grand chose sous la main, et que voilà, on ramasse à partir de l'endroit où on se trouve, sans être un spécialiste de rien du tout, et on essaye. Je peux pas dire autrement. Je voyais l'extermination des Juifs partout autour de moi. Voilà, je le voyais comme Vous le savez, on en a déjà parlé ensemble, Marguerite Duras est un cinéaste qui a énormément compté pour moi, qui compte toujours beaucoup pour moi. J'ai été extrêmement frappé par ces Aurélia Steiner, qui sont pour moi, voilà, qui restent pour moi parmi les plus grands films du cinéma moderne. Et dans la modestie de son geste qui... filmant des docks ou sur lesquels étaient des docks donc de port sur lesquels étaient entreposés des wagons transportant des billes de bois des longs fûts d'arbres et évoquant la déportation et l'extermination des juifs sans rien d'autre que ce qui venait à ses yeux, c'est-à-dire la puissance d'évocation d'images tout à fait banales et tout à fait quotidiennes qui faisait que n'importe quoi lui évoquait ce EUX qui avait disparu et ce CE qui a disparu. Je dirais que c'est à partir de cet art poétique que j'ai construit l'idée de le principe de Drancy à venir.
Et puis ensuite, Arnaud Despalières, vous avez poursuivi dans cette quête d'interrogation de ce que signifie une image. Nous vivons dans un monde pollué, une cataracte d'images. Comment singulariser, individualiser une image? Vous avez fait un film absolument incroyable qui s'intitule Diane Wellington et qui est fait à partir d'images que vous avez trouvées sur Internet et qui ne sont pas identifiées, qui n'ont pas été tournées pour être montrées. Vous êtes une sorte de quoi? De pêcheur d'images dans l'inconnu et dans la voie lactée de toute cette infinité d'images.
À l'époque où je parlais des films que je construisais à partir de textes, comme Adieu, comme Drancy à venir, je disais volontiers que j'entretenais à la littérature un rapport documentaire, en fait, que la littérature était mon monde, littérature en général, hein, philosophique, poétique, romanesque, et que je me promenais dans ce monde et que je ramassais des objets, je les ramenais chez moi et je refabriquais des choses en donnant une vie très intime et personnelle à des fragments de phrases, de textes, ça faisait longtemps que j'avais le désir de faire la même chose avec des images qui n'auraient pas été tournées par moi, des images qui auraient eu une vie et qui auraient été comme certaines images d'archives, de films de famille, de films publicitaires, de films de propagande, d'essayer de leur... en fait, le projet était de les regarder avec suffisamment de tendresse et d'attention pour que leur histoire me vienne. Voilà. Donc j'ai regardé certaines images dont j'ai su a posteriori qu'elles avaient été tournées en 1938 dans une ville du Dakota du Sud et m'est revenu le souvenir en regardant ces images de l'histoire de Diane Wellington, qui est une histoire vraie, qui a été racontée par sa fille, par la fille d'une camarade de classe et qui se souvenait de l'histoire d'une écolière qui avait disparu et dont on n'avait plus jamais eu de traces, qui était la plus jolie écolière, qui était un peu celle qui voyageait, celle qui prenait le train, celle qui était sortie de l'État, ce qui n'arrivait à aucune de... Et le film raconte le destin tragique de cette jeune écolière morte seule, tout à fait seul au milieu d'un champ, et le film raconte les circonstances de sa mort, et je dis, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce film était cette solitude, était de briser cette solitude. J'ai fait le film de façon très spontanée et très très simple. J'ai fait le film pour que cette jeune femme ne soit pas morte seule et qu'on puisse la réaccompagner dans la solitude de sa mort.
Mais je crois qu'on va aussi beaucoup au cinéma pour ne pas être seul. Et je pense que c'est aussi une des thématiques de tous vos films, Arnaud Despalières. Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix d'Arnaud Despalières, Lauryn Hill, A Tribute to Nina Simone. Pourquoi?
Pourquoi quoi?
Pourquoi ce choix?
Pourquoi ce morceau?
Ouais. Nina Simone, on connaît, on aime, on admire. Lauryn Hill. Ça, c'est, oui, vous avez une grande culture américaine.
Pour moi, ce morceau de musique m'évoque l'énergie prodigieuse de ma co-scénariste Christelle Berthevas et de toutes les actrices qui jouent dans Orpheline. Pour moi, c'est une manière en musique de proposer un apéritif d'Orpheline.
Inequity is in the nervous system. Listen, watch the words, how they twist them. Two-thirds of the world turn victim. Subtle energy they capture and block chi. The unseen violence behind a democracy. Some call it hypocrisy. Turn freedom into property. Then logically justify not treating them properly. Invisible ink in the Constitution. Meant to preserve the institution. Unequal distribution of wealth, goods, and services. Revolving door, no floor, just anxiety and nervousness. Trapped in circuses. Herds of us. Understanding our purposes. When appetites and psychological types get caught in the hype, it's tight from morning till night. I'm demanding my rights. Women's suffrage, the black suffrage, or Jim Crow, the KKK. American terrorism. Murders and beatings on television. It's in the cells now. You thought that was yesterday. But the compression stayed. Trauma still got most afraid. Stuck in the memory. Big as birds of lethargy. Generations of children in jeopardy. History written in jealousy. Scribes full of heresy. Full of barbarity. Check out my melody. Musical therapy. Reprogram. Africa full of cold tan. Coltrane was a cold man. Black genius in a cold land. Try to be the whole man. Heal the homeland. Pastime for our own land. Where a grown man could be a grown man. The system has benefited from robbery is robbery. You can't run from it. God is a natural monopoly. Divine creator sucker monotony. Bureaucracy, psyche on poverty. Self-esteem broken like pottery. No more, not me. Code name anomaly. Cause it just don't match for the prodigy. Sovereignty. The God in me. Walking university. Living cosmology. Without apology. Life, the stronger it gets, your debt life, the longer it gets. I know it's hard to admit that you follow some bullshit, swallowed the wrong pill, looking for Mr. Bill. Repression, oppression, same thing. Fear the shadow, that's the main thing. They keep running from. Every action yields an equal and opposite one. Yes, that means the consequence comes. Fields are cumbersome, backbreaker, labor can't be healed just with a cummerbund. I was homecoming queen, call me number one. Yup, that's another one. Now give the drummer some. Tell every mother's son expression can be far more powerful than 100 guns. See my Kalashnikov. Lyrics with the safety off. Now dance around these niggas like Baryshnikov. Street sweeper, my words are my keeper. It's in the ether. Now what your town is hella preachers. It's done. Let loose your tongues. Gifted black and young. Watch these devils run. They knew a change was gonna come. Center man, looking for a place to run. Tell the truth in tons, enemy reduced by ones. Thousands, who can put 10,000 in flight? Speak truth to power every 24 hours.
Disneyland, j'ai rencontré des êtres surprenants. Des êtres grotesques, inhabituels. Ils marchent trois fois plus méthodiquement que les gens normaux. Ils posent les pieds comme s'ils avaient des poids de fer à leurs semelles, sans jamais sembler remarquer à quel point ils sont lents et maladroits. Tous ont cette attitude étonnamment raide. Ce ne sont pas des êtres souples, ce sont des caractères. Ils appartiennent à toutes les espèces. Ils ont tous les âges, tous les tempéraments, et ils ont presque toutes les occupations imaginables. Chacun n'est qu'une infime cellule de ce monde complexe et incroyablement peuplé. Mais chacun est aussi une existence individuelle, aussi unique qu'une empreinte digitale ou qu'un flocon de neige. Chacun possède un vêtement qui est le signe de son être. Chacun porte, dans les attitudes de son corps, dans ses membres, sur sa face, le signe d'une légende, d'une époque et d'un endroit du monde.
Nous venons d'entendre un court extrait de votre documentaire en 2002 intitulé « Disneyland, mon vieux pays natal ». Un film culte, un film qui est d'ailleurs étudié dans toutes les écoles de cinéma. Et vous savez, Arnaud Despalières, que ce soir sort un film de Walt Disney, mais un remake, La Belle et la Bête, avec Emma Watson. C'est pas tout à fait votre genre.
Je sais pas, tant que je l'ai pas vu, je vais pas en dire du mal.
Bon, en tout cas, grâce à Disneyland, on comprend les ressorts de notre imaginaire et pourquoi, quel que soit notre âge, on a toujours besoin d'un Disneyland à l'intérieur de notre tête. Dans cette émission, nous invitons une personnalité qui connaît le travail de l'invité à s'exprimer. Nous avons demandé à Jean-Louis Comolli, réalisateur, professeur, écrivain, auteur d'un récent livre tout à fait passionnant intitulé « Daesh, le cinéma et la mort » de parler de votre travail. Écoutez.
Alors, je connais Arnaud Despalières depuis maintenant pas mal de temps, puisque j'ai été son professeur, si on peut dire. Bon, nous nous sommes connus dans une école de cinéma qui s'appelle la Fémis à Paris, dont j'ai été co-directeur du département réalisation avec Maurice Felvic. Et Arnaud était dans les élèves en réalisation. Et bon, il était évident que c'était quelqu'un de tout à fait remarquable. Très vite, nous l'avons senti. Et disons qu'il y a eu deux occasions dans lesquelles j'ai pu établir avec lui une relation à la fois de travail et d'amitié. C'était que le Forum des Images m'avait donné une carte blanche pour montrer des films, les miens en principe, mais j'ai choisi de montrer des premiers films de jeunes cinéastes. Et donc j'ai demandé à Arnaud et on a montré un des premiers films, parce qu'il en a fait d'autres avant l'école, mais disons le premier film d'école d'Arnaud Despalières, qui était un film qui évoquait la Commune de Paris et qui évoquait également cette figure étrange de l'ange dont parle Walter Benjamin, voilà, qui regarde vers le passé mais qui s'occupe de l'avenir, ou le contraire, ou les deux. Voilà. Non, mais voilà. Donc Arnaud est quelqu'un d'extrêmement... Le mot cultivé convient pas parce que c'est quelqu'un qui avait lu et qui avait compris. C'était pas simplement une teinture, c'était quelque chose de plus profond. Voilà. Et puis une passion du cinéma qu'il n'est pas nécessaire de décrire plus longuement. Et puis l'autre occasion, nous avons travaillé là carrément ensemble, c'est quand j'ai collaboré avec lui sur un film qui s'appelle Naissance d'un hôpital, qui date de 1991, si mes souvenirs sont exacts. Alors, bon, après, j'ai suivi un peu son travail, évidemment, et j'ai été quand même, avant tout, frappé, et j'admire toujours un film qu'il a fait en 2000, et qui s'appelle Disneyland, mon vieux pays natal. Voilà, donc c'est un film dit documentaire, mais ça, le mot documentaire n'a littéralement aucun sens dans ce cas-là, puisque c'est un film qui raconte des histoires, et non seulement qui raconte des histoires, mais qui est fait d'histoires. D'histoires que raconte la voix d'Arnaud, mimant tel ou tel personnage. C'est un film magnifique. C'est un film important dans la mesure où il a, eu cette idée centrale de filmer à Disneyland, avec l'accord de Disneyland, ce qui était déjà une exception, mais de filmer sans le son. Voilà. Et donc on a le son que fabrique Arnaud, avec sa voix, avec ses imitations, etc. Et puis on n'a pas le son de Disneyland, parce que Disneyland, moi j'y suis jamais allé, mais je sais que c'est d'abord du son. Il y a de la musique, il y a des publicités, etc. Ce monde sonore, qui est le monde marchand, qui est le monde du spectacle marchand, Arnaud a eu l'intelligence de le congédier. Et du coup, c'est assez fantasmatique. Voilà. Et c'est très fort. Ça fait peur. C'est un très beau film. L'important pour moi, je pense que ce qui se noue un jour de fort ne se dénoue jamais. Et que le rapport que j'ai eu personnellement avec Arnaud est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, qui comptera toujours. Voilà. Que dire d'autre? Vas-y, mon coco.
Vas-y, mon coco, vous dit votre ancien professeur Jean-Louis Comolli, donc Arnaud Despalières. Vas-y, ben oui, vous y êtes allé. Et encore une fois, en nous étonnant avec ce film qui sortira la semaine prochaine, qui s'intitule Orpheline. Michael Koulas avait beaucoup séduit, avait très bien marché. Il avait d'abord été sélectionné en compétition au Festival de Cannes, puis ensuite il a eu une très belle histoire. Mais vous n'avez pas continué sur les succès et les lauriers que vous aviez engrangés. Vous changez de genre. D'ailleurs, vous n'avez pas un genre, vous avez plusieurs genres. Et à chaque fois, un peu comme un joueur au casino va engager toutes ses économies et tous les gains antécédents, eh bien, vous prenez des risques à chaque fois. Alors, Orpheline. Orpheline, c'est d'abord un film sidérant qui joue sur les émotions, les perceptions, les sensations. L'histoire est fragmentée. Il s'agit d'une seule histoire, d'une seule et même personne qui est interprétée par quatre comédiennes époustouflantes. Et c'est au spectateur de coller les morceaux du puzzle mental, du puzzle politique, du puzzle psychique d'une petite fille dont on va s'apercevoir qu'à la fin du film. Alors il faut pas trop en dire, c'est exactement comme dans les polars. Il faut pas ni raconter le film, d'ailleurs il est absolument irracontable, mais en même temps vous nous embarquez dans une sorte de tunnel, une sorte de vertige, à la fois par la beauté de la bande-son, à la fois par l'écriture époustouflante de la fragmentation de ce scénario, dans un univers ô combien violent, Arnaud Despalières. Comment est né ce film, Orpheline ?
Il est né pour deux raisons, de deux envies, plus que ça. D'abord, il est né de l'importance que ça a été pour moi de travailler avec Christelle Berthevas sur l'écriture de Colas, du désir de refaire une écriture ensemble.
Donc c'est votre co-scénariste.
Oui, et dont d'ailleurs, au fond, un journaliste aujourd'hui m'a dit, mais en fait, on pourrait dire qu'elle est co-auteur, en fait, du film. Et évidemment, elle est co-auteur du film. Sa place est tellement prépondérante dans Orpheline.
Mais c'est de son histoire dont il s'agit?
Alors, on est parti de son histoire. Je lui ai demandé de me raconter, elle m'avait raconté son histoire. Pardon, je connaissais donc son histoire et je voulais que
dingue.
Le film restitue au spectateur l'émotion qu'avait été la mienne quand elle m'avait raconté son histoire. Et donc je lui ai demandé de jeter sur le papier des fragments de son histoire, comme ça lui venait, en lui disant ne cherche pas à lui donner une forme scénaristique trop tôt, voyons ce qui vient. Et sont venus des fragments d'émotions, de sensations, qui se sont agrégés autour de plusieurs âges de sa vie, on va dire principalement trois âges, en tout cas c'est ce qu'on en a retenu après un premier tri, et qui ont tout de suite immédiatement posé la question, comment on raconte cette histoire? Et tout de suite, il n'y avait à mes yeux qu'une seule solution, c'est que ce soit une sorte de film en chapitre, sans continuité, et que chaque âge ne pouvait être autrement que raconté par une actrice différente. Voilà, puisqu'il y avait des événements très importants qui se passaient pour une petite fille de 6 ans, des événements aussi importants qui se passaient autour de l'âge de 13 ans, d'une petite adolescente, et puis des 20 ans de l'arrivée d'une jeune fille, d'une jeune provinciale qui débarque à Paris. Voilà. Ça, c'est ce qui est arrivé en premier, qui fait que tout de suite, il y a eu cette idée, c'est pas possible, je ne trouverai pas une actrice qui pourra jouer tout, et je suis même pas sûr de pouvoir trouver une actrice qui puisse jouer la gamine de 13 ans autant que la gamine de 20 ans. Et puis est venue la nécessité de raccorder ces trois moments de la jeunesse et de l'enfance à un présent et à un âge adulte qui viendrait. Il faut que les films aient une fin véritablement. Il faut pas que ça s'arrête comme ça. Donc il fallait boucler une forme de boucle. Et donc on a de façon plus fictionnelle là créé le personnage qui est interprété par Adèle Haenel, qui est le personnage à l'âge de 27 ans, l'âge où alors qu'elle désire depuis longtemps, elle va apprendre qu'elle attend un enfant.
Alors souvent, on dit, quand on raconte des histoires extraordinaires, on dit, on pourrait pas le raconter au cinéma parce que vraiment, c'est pas possible. Mais là, ce que vous racontez, Arnaud Despalières, c'est une histoire vraie dont vous faites du cinéma. Je vous propose de réécouter le court extrait. C'est le tout début du film, Orpheline, qu'on a écouté tout à l'heure pendant le générique. Ça commence comme ça. Écoutez.
Oui.
Karine Rosinski. De Karine Rosinski, madame.
Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe?
Pauline, ouvrez la porte.
C'est quoi ce bordel?
Oh,
restez calme, monsieur.
Baissez vos armes, putain.
Parlez pas comme ça, monsieur. Madame, vous êtes Karine Rosinski?
Baissez vos armes, s'il vous plaît, c'est dangereux.
J'ai un mandat d'arrêt au nom de Karine Rosinski.
C'est pas ici, vous vous trompez, c'est pas elle. Baissez votre arme, vous lui faites peur.
On bouge plus. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité?
C'est pas elle, je vous dis.
Vous êtes Karine Rosinski, madame?
C'est n'importe quoi, c'est ma femme. C'est la directrice de l'école. Montre tes papiers.
Madame.
René.
C'est Karine Rosinski?
Oui.
Je crois, Arnaud Despalières, que chaque personne qui ira voir votre film aura son interprétation du film et qu'il n'y aura pas une seule interprétation de ce film et que chacun y verra ce qu'il aura envie de voir selon ce qu'il perçoit du monde et de la vie. On peut voir, en tout cas dans ce film, la naissance au monde d'une petite fille qui a été traumatisée dans sa haute enfance et qui ensuite va éclore, mais un peu comme une fleur vénéneuse parce que les circonstances de sa vie vont être très très violentes.
Je repense à, pour vous répondre, vous avez rencontré Jean-Louis Comolli et il a parlé tout à l'heure. Jean-Louis Comolli a écrit un livre qui s'appelle « La place du spectateur ». Je repense souvent à cette expression « la place du spectateur ». Et plus j'avance dans mon travail et plus je pense qu'elle est primordiale dans les films, la place du spectateur. Et que, d'une certaine manière... dans la construction du film, il faut toujours penser à une bonne place pour le spectateur et pour chaque spectateur. J'essaie, pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, d'entretenir une relation d'intimité avec le spectateur. Et pour ça, ce que je lui montre a au moins autant d'importance que ce que je ne lui montre pas. Adèle Haenel, qui est très engagée dans la promotion du film et qui m'accompagne et que j'entends parler, on a été rencontrer des spectateurs dans des salles à des avant-premières, dit que ce qui lui plaît le plus dans le film, c'est que c'est un objet de fantasme, c'est un objet de désir, c'est un objet de projection de son propre imaginaire, et que évidemment chaque spectateur se fait son propre film, parce que déjà le film n'a pas un centre de gravité, il en a quatre. Je dis volontiers, c'est un peu comme si au lieu de construire une maison normale avec une porte, j'avais construit une maison avec quatre portes. Et selon la sensibilité de chaque spectateur, on peut dire, ah bah c'est l'histoire d'une petite fille qui, ou alors ah bah c'est l'histoire d'une institutrice qui, ou alors c'est l'histoire d'une adolescente qui, ou alors d'une... Voilà. Et ça change énormément de choses. Ça rend, je l'espère, le film plus accueillant. Ça demande un engagement de la part du spectateur. Ça demande... j'ai toujours été préoccupé par le fait que les films que je fais, les œuvres auxquelles je travaille, ne soient pas... Elles sont des objets de consommation parce que le film s'inscrit dans le monde et on est dans un monde où, voilà, qui est un monde de la société de consommation, mais ne soit pas que un objet de consommation, ne se réduise pas à sa consommation. Et pour qu'un film ou n'importe quelle œuvre ne se réduise pas à sa consommation, il faut qu'il y ait un échange avec le spectateur, que le spectateur ne soit pas simplement un consommateur. J'ai acheté, je consomme. Non. Et même si j'ai acheté, je dois aussi faire le film avec l'œuvre et avec le cinéaste. Tout n'est pas donné. Et il y a une part que moi aussi, spectateur, je dois donner au film. Je suis très frappé de maintenant que je commence à avoir un certain âge, c'est-à-dire j'ai 55 ans, et donc ça fait je commence à avoir vu des films depuis très longtemps, depuis très jeune. Je suis très frappé de la manière dont les films restent en moi, quelquefois un seul plan, quelquefois une impression, quelquefois un rayon de soleil dans un plan qui contient toute la mémoire du film.
Eh bien, je crois que les images, la bande-son, la beauté de la nature, les mystères de la forêt, la beauté des corps de toutes ces jeunes filles resteront longtemps dans nos mémoires. Et en n'oubliant pas la beauté de la musique, c'est comme ça qu'on va se quitter, Arnaud Despalières, en écoutant votre bande-son de Orpheline. Entendre donc les musiciens de la bande-son de Orpheline, Tara King TH, Scroogey Girl. C'est une formation musicale française originaire de la région Rhône-Alpes. Bonne chance Arnaud Despalières pour ce film Orpheline qui sort la semaine prochaine. Merci à Thierry Dupin, à Véronique Barnet qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Soufiane Kousna, avec à la technique ce soir Florent Beauvallet. Merci à tous et j'espère à demain.